Bonjour, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Jean-Michel Vernochet. Bonjour Jean-Michel Vernochet. Vous êtes journaliste,
oui, bonjour.
vous êtes écrivain, vous avez été reporter au Figaro Magazine. Vous êtes vraiment spécialisé dans toutes les questions liées à la géopolitique, liées à l'intelligence économique, liées à l'espionnage, liées à notre souveraineté. Vous avez publié plusieurs livres qui sont des références dans ce domaine, Jean-Michel Vernochet. Et moi, ce qui m'a bluffé, c'est que j'ai vu, vous avez publié il y a plusieurs années, dès 2004, ensuite en 2014, les livres sur l'Ukraine, l'engrenage, puis ensuite l'escalade. Et vous, tout ce qui se produit aujourd'hui, qui nous interpelle, eh bien vous l'aviez annoncé il y a déjà plusieurs années. Donc on peut dire que vous êtes vraiment légitime pour parler et pour évoquer cette question, Jean-Michel Vernochet. Alors tout ce qu'on va dire ne va pas forcément faire plaisir. Je sais qu'il y a des auditeurs qui vont sursauter, mais d'abord, on est dans un pays libre. Vous avez travaillé, c'est le fruit de vos recherches. Et ce que vous dites, moi je l'ai vérifié dans vos livres. Donc on va essayer d'avancer lentement, avec intelligence, pour expliquer au grand public ce qui se passe en ce moment. Alors, pour beaucoup de gens, on est dans le méchant Poutine, qui attaque les pauvres innocents ukrainiens. Zelensky est un homme formidable qui se bat. Voilà la doxa, hein, la version officielle, vous êtes d'accord?
Alors, c'est un décor à la Potemkinor. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer quelques instants. Alors, à une époque, à une heure où c'est devenu extrêmement difficile de pouvoir donner quelques éléments de compréhension. Quand je dis nous sommes dans un décor à la Potemkine, la grande Catherine avait un premier ministre qui était aussi son amant et qui l'emmenait dans la Russie profonde, et il crée de véritables décors à la Hollywood. Vous savez, c'est bizarre. À la Disney, elle passait dans les façades, elle voyait des maisons rutilantes, mais en fait, c'était que des panneaux de bois. Alors, je note qu'à la télévision française, par exemple, Monsieur Pascal Praud, et là, prend des indignations majeures en disant, enfin, voyez, les Russes bombardent. Alors, ils nous montrent une façade. Ça peut être la façade d'un centre culturel, d'un hôpital pédiatrique, voire d'une maternité, pourquoi pas. On peut pas nier ça. Mais oui, mais ce n'est qu'une façade. Et il fallait voir aussi ce qui se cachait derrière la façade. Mais ça, personne ne le dit. On en reste à la première image et à la façade. Nos journalistes ont encore beaucoup de travail à faire pour apprendre les bases de leur métier. Alors, on a maintenant le méchant Poutine. Hier, on avait le méchant Kadhafi. C'est vrai que c'était un homme fort qui n'était pas forcément d'une très grande aménité avec tout le monde. Mais son pays se portait bien. On a eu Saddam Hussein, qui était le monstre des monstres, et puis on a eu aussi Milosevic. Tout ça, c'était des petits Hitlers. On réinvente des Hitlers au fur et à mesure des besoins. Je pense que les choses ne sont pas comme ça. Je ne sais pas si Poutine est tombé dans un piège. Peut-être, sans doute. Mais en tout cas, je vais citer Lamennais, qui nous dit non, c'est pas Lamennais, c'est Montesquieu, qui nous dit que les responsables de la guerre, les coupables, ne sont pas forcément ceux qui conduisent la guerre, mais ceux qui en créent les conditions. J'espère m'être bien fait comprendre.
C'est très intéressant. Alors, j'aimerais faire un parallèle, parce que certainement, certaines personnes doivent sursauter en disant « c'est ignoble ce que vous dites, on voit bien il y a quand même les blessés, les réfugiés qui fuient, les choses sont dramatiques pour ces pauvres gens et tout le monde a de la compassion hein, pour ces femmes et ces enfants. »
Voilà.
On n'est pas là, personne n'est en train de se… Mais moi j'aimerais faire un parallèle avec l'Irak de Saddam Hussein. On était dans la même situation où on nous décrivait des choses totalement fausses, notamment à Kuwait City, en nous disant que les soldats irakiens rentrer dans la maternité de Koweït City pour jeter les bébés des couveuses. Voilà comment l'opinion publique mondiale a été manipulée. Si vous osiez dire à cette époque-là, c'est peut-être pas vrai, tout le monde se levait de table et vous étiez banni.
Alors, on arrachait les couveuses, les nouveau-nés, les prématurés, on les arrachait aux couveuses pour les jeter sur le sol. Oui. Et le président George Bush, senior, a dit « comme du bois à brûler ». Il a dit « lorsque j'ai pris la décision », c'est historique ce que je dis, ce n'est pas une affabulation. Lorsque j'ai pris la décision d'engager les hostilités, j'étais en train, à genoux devant mon lit, en train de prier, et j'avais devant les yeux des enfants jetés sur le sol comme du bois à brûler, enfin c'est nouveau-né. Tout ça a été faux, d'ailleurs il y avait plus de couveuses à Koweït City qu'il n'y en avait à l'époque dans toute l'île de France, mais ça personne n'avait noté. La soi-disant infirmière était la nièce ou la fille d'un diplomate koweïtien qui était à Londres, qui était basé à Londres, et c'était un montage, je pense, de la grande. Nous aujourd'hui, nous avons comme consultant et conseiller du prince, nous avons McKinsey, et eux, ils avaient Saatchi et Saatchi.
Non, c'était Saatchi. L'affaire des couveuses, ça a été monté, ça a été scénarisé par une agence de relations publiques aussi qui s'appelait Hill & Knowlton.
Donc Saatchi et Saatchi, ce sont des gens qui étaient originaires d'Irak. Oui. On nous a fait croire, puisque je me souviens très bien de toute cette époque, de cet épisode, on nous avait fait croire qu'en fait, si on engageait la guerre, c'était pour une question de droit international. C'était le droit. Mais en fait, au Pentagone, on avait montré les bébés arrachés à leurs couveuses. Donc, on jouait aussi sur la corde et sur la fibre émotionnelle. Exactement de la même façon, on a oublié que c'était un mensonge qui était à l'origine de cette guerre de février 1991, l'intervention de l'opération Tempête du désert. De la même façon qu'en 2003, Monsieur Colin Powell avait montré sa fiole avec du sucre en disant que c'était de l'anthrax et que tout le monde avait marché dans la combine. Mais plus le mensonge est gros, plus il est énorme. Plus ça marche. Alors je peux vous dire, pour avoir bien fréquenté l'Irak à cette époque, d'avoir eu des contacts amicaux et étroits avec le diplomate français qui suivait les négociations de désarmement de l'Irak, on savait avant 1990, que l'on allait passer en contrôle continu sur le programme nucléaire. Il n'y avait pas de programme nucléaire, il n'y avait pas d'armes chimiques, et tout le monde le savait. Donc tout le monde a marché volontairement dans cette combine qui a fait des centaines, comme chacun sait, des centaines, voire des millions. Hein.
Ce que l'on dit là est très important, parce que Jean-Michel Vernochet... Peut-être que l'on se trompe, peut-être qu'il y a une probabilité qu'il y ait des choses, qu'il y ait de l'infamie dans ce qui se passe en ce moment. Mais on nous a tellement menti sur des faits similaires venant des mêmes personnes que je dis qu'il est légitime d'écouter, de s'interroger et de se poser des questions. Vous êtes d'accord avec cette analyse, voilà. Si vous êtes banquier, Jean-Michel Vernochet, et que vous avez prêté de l'argent à un gars, il vous rembourse pas, il vous plante, après il vous excuse, et puis il revient, et peut-être il se débrouille, il obtient un autre prêt, il vous replante, vous lui faites pas confiance. C'est la même chose.
Chat échaudé craint l'eau froide. Voilà. Chat échaudé craint l'eau froide. Une fois qu'on s'est fait avoir une fois, mais ce qu'il y a de curieux, c'est qu'avec ce type de mensonge d'État, de mensonge géopolitique, ce sont toujours les mêmes ficelles, les mêmes grosses ficelles, et ça marche à chaque fois.
Alors, sur le personnage de Zelensky en lui-même, que pouvez-vous nous dire ?
Bah, c'est un très grand comédien. C'est un comédien extraordinaire.
C'est son métier.
C'est son métier. Au départ, il était comique troupier. Ceux qui ne savent pas ce qu'est un comique troupier pourront retourner à l'histoire du music hall en France. Mais il s'adapte. Alors, il s'est adapté, il n'est pas devenu chef de guerre. Là aussi, un type comme Pascal Praud est là, bavant d'admiration. Quel courage, tout le monde, quel courage. Mais non, pas quel courage. Il joue bien son rôle, et il le joue même très bien. Tous les jours, il invente un crime de guerre. Et le crime de guerre plus ou moins fantasmatique. Ça s'est passé déjà comme ça pour le Kosovo. Hein, on nous faisait croire qu'il y avait des réfugiés, des hordes de réfugiés, et qu'on interrogeait à l'arrivée je ne sais où, en tout cas en dehors de la Serbie, et en oubliant de dire oui, ils devaient arriver en Albanie, qu'en fait ils avaient fait 20 km ou mieux 30 km à pied, les hommes étaient soigneusement rasés, les femmes étaient fraîches, et on décrivait des exactions extraordinaires, extravagantes, s'étant déroulées. Et à telle enseigne que un caricaturiste avait écrit, on voit les témoins qui disent, et ils ont sorti les tigres du zoo et ils ont lâché sur nous. Plus le mensonge est terrifiant, monstrueux, et mieux ça marche. Alors, je vous donne un exemple. L'autre jour, c'était il y a une bonne semaine, je voyais Monsieur Kouchner, bien connu, l'homme qui porte des sacs de riz, qui était sur je ne sais quel CNews ou BFM, et qui nous expliquait qu'il y avait déjà 20 000 morts parmi les civils. Ah bon? Et alors, il y avait une gentille journaliste, mais ça devait être une stagiaire qui savait pas, qui n'avait pas compris les règles du jeu, qui dit, mais non, pas 20 000, les chiffres officiels des Nations Unies, du Haut Comité pour les réfugiés, etc., parlent de 900 morts civils. Et Kouchner, d'un revers de main, il avec son rire, vous savez, son rire célèbre, quand on lui parlait des trafics d'organes au Kosovo, après la guerre, il a un rire tonitruant, dit pas 20 000, 20 000, 15 000, mais c'est bien la même chose. Donc, vous voyez, pour Monsieur Kouchner, on passe on multiplie par 15, 900 deviennent 15 000 ou 20 000, ou par 20. Mais c'est normal chez ces gens-là, puisqu'ils gouvernent, ils dirigent par le mensonge. Hein, Monsieur Poutine, je ne suis pas un poutinien ou un poutiniste invertébré ou invétéré, forcené, mais Monsieur Poutine a bien décrit l'Occident comme l'empire du mensonge. Ben, je pense que j'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelait « L'empire du mensonge ». C'était avant la crise ukrainienne, il est publié aux éditions Décime. L'empire du mensonge, ben c'est vrai que l'Occident est devenu l'empire du mensonge. Vous avez constaté comme moi, comme en 2001, quand les tours jumelles s'effondrent, il y a la tour numéro 7 du World Trade Center qui s'effondre aussi, sans avoir été touché par un avion, sans incendie majeur, sans rien, elle s'effondre toute seule. Eh ben, nous sommes dans un monde où les choses interviennent par l'opération, comme on dit chez nous, par l'opération, la simple opération du Saint-Esprit.
Là où l'opinion publique française, vous avez peut-être pu le remarquer, moi quand je vais acheter mon pain, je discute, là elle commence à se dire aussi, là c'est sur ce point-là, que le président Zelensky veut nous entraîner dans une guerre, toujours critiquer la France, pour nous entraîner dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Est-ce qu'il y a un réveil de l'opinion publique sur ce point-là?
Alors, il faudrait vérifier. On m'a donné aujourd'hui un chiffre extravagant en disant que 52% des Français seraient à la fois contre les sanctions, les sanctions et contre la politique que nous menons en Ukraine. Alors, je ne sais pas si c'est un réveil, mais c'est tellement énorme. Et Monsieur Zelensky en fait des tonnes. Je vous dis, il n'y a que les Russes, les méchants Russes atroces, qui empêche empêche les couloirs humanitaires de rester ouverts, qui empêche les gens d'être évacués, alors qu'on sait très bien que les milices ukrainiennes tirent sur les voitures, arrêtent les gens, on peut le voir sur la toile, et même Monsieur Praud l'a vu, arrête des gens dans la rue, des hommes, des femmes qui ne combattent pas à leur côté et les fouette ou les bastonne dans la rue en les attachant
Ce sont des femmes, j'ai vu des photos de femmes passer, des reportages là-dessus.
J'ai vu des hommes aussi. Apparemment, Les Ukrainiens, les milices, qu'on appelle les groupes de représailles d'ailleurs, faut pas croire, quand M. Poutine s'assemble extraordinaire vu d'ici, nous parle de la dénazification, alors ce sont c'est pas des nazis, ça n'a plus rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale, mais enfin bon, ils s'en donnent toutes les apparences, sont plutôt des russophobes forcenés, c'est une guerre à la fois, une guerre civile à la fois ethnique, et aussi également religieuse, puisque ceux qui viennent de l'Ouest sont plus ou moins polonisés ou polonais, et donc sont catholiques, ils ne sont pas des orthodoxes. Voilà, alors j'en reviens à Monsieur Zelensky qui en fait véritablement des tonnes, et ça finit par lasser, on commence par s'émouvoir, mais vous remarquerez que on voit surtout des gens qui passent la frontière, qui ont les premiers avaient les traits tirés, étaient fatigués. Donc on voit aussi des femmes, des familles qui sont plutôt habillées très convenablement, qui n'ont pas l'air d'avoir échappé la minute précédente à un bombardement. Et nos télévisions ne nous montrent que des colonnes de réfugiés, que des réfugiés. On ne montre pas la guerre on la voit pas. On peut la voir, mais il faut vraiment la chercher en creusant sur la toile. Alors, Monsieur Zelensky, avec sa barbe, avec son maillot de corps, on appelait ça autrefois un maillot de corps, son maillot tout court, son débardeur, son chez. Monsieur Macron, d'ailleurs, s'est déguisé à un moment donné, s'était laissé pousser la barbe et s'était mis aussi, s'était déguisé en Zelensky, sauf que ça marche pas. Monsieur Macron a beaucoup, beaucoup de talent dans le baratin, dans le baratinage, mais pas autant que Monsieur Zelensky. Bon, je pense que Monsieur Zelensky voudrait bien que faire la guerre pour son clan, pour ses oligarques, pour l'état profond américain avec les Européens, avec le sang des Européens, de même que Monsieur Biden et à Washington, on voudrait bien qu'il y ait une guerre, parce qu'ils ont dit on s'en mêle pas, mais ils fournissent des armes, c'est-à-dire ils alimentent le brasier. S'il n'y avait plus d'armes, les choses seraient peut-être terminées dès le départ. Mais on apporte des armes et encore des armes. Madame von der Leyen, dont ce n'est pas le rôle, qui n'en a pas les attributions, l'habilitation, fournit également des armes au nom de l'Europe. Mais de quel droit? Y a-t-il eu un vote quelque part? Madame von der Leyen n'a d'ailleurs pas été élue elle-même. Et donc l'Allemagne réarme. Enfin bon, on est véritablement sur une mauvaise pente. Rappelons que non seulement l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, donc nous ne sommes pas tenus par les obligations de l'OTAN et notamment de l'article 5, mais surtout nous n'avons aucun traité d'assistance avec l'Ukraine. Or, il faut revenir au départ et au méchant Poutine. Le méchant Poutine, moi je pense qu'il est tombé dans un piège que lui a tendu l'OTAN, parce que ces événements nous permettent de découvrir que l'Ukraine était déjà une base arrière de l'OTAN et que M. Poutine a pris les devants face à une vaste opération d'épuration ethnique qui devait intervenir sur l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire sur le Donbass. Monsieur Biden voudrait faire la guerre non pas au Donbass et aux Ukrainiens russophones, mais à Monsieur Poutine et au-delà de Monsieur Poutine à la Russie, puisque c'est ça le but de la manœuvre, le véritable but, faire tomber Monsieur Poutine, détruire la Russie comme concurrent, et Monsieur Biden ferait d'ailleurs d'une pierre deux coups, puisque l'Europe aussi est un dangereux concurrent pour les États-Unis, et démanteler un peu l'Europe encore plus. C'est ce qui serait le mieux, c'est l'objectif recherché.
Alors Jean-Michel Vernochet, je suis très heureux de vous avoir. Je rappelle que vous êtes ancien grand reporter au Figaro Magazine, vous êtes membre de l'Académie de géopolitique de Paris, géopolitologue, écrivain. Vous avez publié déjà en 2014, vous écriviez dans votre livre « Ukraine, l'escalade ». Tout était dit, rien que dans le titre, que pour la première fois depuis 1939, l'éventualité d'une possible guerre totale frappe à nos portes. Or, force est de constater que la diabolisation de la Russie et de ses dirigeants atteint actuellement des sommets inouïs dans la presse. Et vous aviez décrit exactement que cette diabolisation allait se poursuivre et que cette situation ukrainienne devrait être réglée. Vous aviez cité Hubert Védrine, à l'époque ministre des Affaires étrangères, qui disait que détester Poutine, ça ne fait pas une politique et qu'il faut trouver des solutions. Finalement, on n'en a jamais trouvé sur cette question ukrainienne.
Parce qu'on n'a jamais
voulu. D'avoir écrit ça, Jean-Michel Vernochet, ça devrait vous valoir des invitations sur les plateaux de télévision et sur les radios.
Ah ben c'est à peu près le contraire. je voudrais vous signaler un homme, un écrivain de talent, un géopoliticien, Manlio Dinucci, qui est gauchiste, mais gauchiste assumé, un gauchiste intelligent, parce que ça existe. Véritablement intelligent, avec une pensée structurée. Ces 10 dernières années, il écrivait dans le journal italien de gauche, Il Manifesto. Eh bien, du jour au lendemain, il a été viré. Alors, je peux vous dire que moi-même, j'avais soumis un article à Boulevard Voltaire, il a été refusé. Je suis interdit sur TV Liberté, je suis interdit à peu près partout. Partout. Ce que je dis, il ne faut pas le dire. Alors, quelques-uns, il y a quelques filets, comme Jacques Beau, par exemple, un ancien patron des services d'enseignement.
On connaît bien Jacques Beau. Ouais. En fait, le problème de ces médias...
Pardon ?
Le problème... D'abord, on connaît bien Jacques Beau. Le problème des médias, souvent, que vous évoquez, c'est qu'ils dépendent d'Internet. Donc, c'est peut-être pas la faute de TV Liberté et d'autres. Je vais pas prendre... Voilà. Ils ont peur d'être censurés par YouTube. Il y a aussi ça. Non.
Non, mais c'est tout à fait volontaire, je peux vous le dire. Donc, on peut échapper de temps en temps. Je conduis moi-même une émission de radio qui s'appelle Le Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Okay. Mais enfin, l'auditorat est quand même relativement limité. Mon impact est faible, puisque j'ai 20 000 suiveurs, si l'on peut dire. C'est peu de choses, mais enfin c'est déjà ça. Je fais ce que je peux, comme une petite fourmi qui apporte son grain de sable à l'édifice de la vérité.
Pourquoi ne pas s'interroger ? Pourquoi ne pas chercher la vérité ? Après tout, la France n'a rien à voir dans ce conflit. Monsieur Macron a répété à plusieurs reprises que la France n'était pas en guerre contre la Russie. Si la France était officiellement en guerre contre la Russie, je veux bien admettre qu'il y aurait intelligence avec l'ennemi, propagande de l'ennemi, qu'on pourrait nous sortir. Là, la France n'est pas en guerre avec la Russie. Et M. Macron a dit aux chefs d'entreprise français, encore très peu de temps, si vous voulez rester en Russie, restez-y. Donc, on a le droit d'analyser, de s'interroger, de poser des questions, voir des spécialistes qui pensent différemment. Si demain il y avait une guerre entre le Costa Rica et je sais pas quel pays voisin, on ferait pareil.
Oui, alors Éric Dénessé, qui est quelqu'un de connu, qui appartient à l'establishment de la politique en France, nous a bien expliqué que M. Zelensky était responsable de cette guerre. Mais il faut le dire aussi, c'est pour ça peut-être que Boulevard Voltaire, qui m'avait censuré, j'avais dit que M. Macron, à la suite de M. Hollande et l'actuel chancelier allemand, à la suite de Mme Merkel, était responsable de la situation actuelle. Ça fait 7 ans que le protocole de Minsk a été signé, puis les accords en format, comme on dit, c'est une expression américaine, en format Normandie, ont été signés en février 2015. Ils n'ont jamais été alors que la France et l'Allemagne en étaient les garants et les parrains. Qu'avons-nous fait ? Qu'a fait M. Macron ces 5 dernières années ? Rien. Donc si aujourd'hui il y a un risque de guerre, on le doit à ces gens-là. C'est eux qui sont les véritables coupables. Rappelons, mais on ne le dit pas assez, que la guerre n'a jamais cessé au Donbass depuis 2014 et que ce sont 13 à 14 000 morts civils ou militaires qui sont intervenus. Enfin, 13 à 14 000 morts au Donbass. Donc, là aussi, on ne peut pas parler à proprement dit de génocide, mais c'est un gros massacre, 14 000 morts. Il fallait que ça cesse. Et on découvre maintenant qu'il y avait en Ukraine des couveuses pour enfants produits par GPA, que c'est un des lieux majeurs sur la planète pour le trafic d'êtres humains, qu'il y avait 26 laboratoires de recherche biomédicale, mais certains étaient des laboratoires de recherche, que qu'il y avait un camp, celui qui a été bombardé à la frontière, à côté de Lviv, Wolf, de la frontière, Wolf, c'est la prononciation russe, à la frontière polonaise, hébergeait un véritable camp d'entraînement de l'OTAN. Enfin, tout ça, il faut qu'il y ait ce soulèvement de poussière pour qu'on découvre une réalité qui était véritablement consternante. Alors, je vous signale, parce que c'est important de le savoir, que mes deux livres ont été réédités, augmentés, avec une énorme préface aux éditions du Alpha, et l'édition date de juillet, du mois de juillet dernier, donc c'est tout à fait récent, et il y a le paysage géopolitique est complété dans cette réédition, et ça s'appelle Ukraine, genèse d'une crise, aux éditions du Alpha.
Chroniques ukrainiennes de Jean-Michel
Vernochet.
Voilà.
Oui,
Vous allez sur le site des éditions du Alpha. On le trouve assez facilement sur Internet. Et puis, de toute façon, nous, on va mettre le lien sur notre site Internet. Pour les auditeurs qui nous écoutent dans leur voiture, voilà, on va le mettre rapidement sur le web. Alors, il y a un sujet. Bon, alors maintenant, je ne vais pas vous demander d'être Madame Soleil, hein, Jean-Michel Vernochet. Est-ce que les espoirs d'une paix, est-ce qu'on peut espérer qu'ils vont trouver une sorte d'accord tel qu'on pourrait l'imaginer? Moi, je pars du principe que dans une paix, il faut humilier personne. Et je prends souvent cette image. Il faut que les deux combattants rentrent chez eux voir leur femme à la maison en leur disant « j'ai gagné ». Donc voir leur peuple, en l'occurrence. Pour que M. Poutine dise « j'ai gagné, on a eu plus que ce qu'on a eu », c'est lui donner son Donbass, hein, voilà, et toute cette partie. Et que M. Zelensky dise « j'ai gagné », il pourra dire « la Russie nous a mené une guerre, ils sont repartis, on leur a donné juste ce bout de territoire ». Est-ce que ça vous semble cohérent, ma pensée, ou nous fous, malheureusement ?
Je ne dirais pas que votre vision des choses et vos espoirs sont iréniques, mais en tout cas ils sont un peu idéalistes. Si on se reporte au fameux but réel de guerre, puisque c'est pas une guerre avec l'Ukraine. L'Ukraine n'est qu'un théâtre d'opération. Les questions qui sont en jeu sont beaucoup plus vastes, c'est celle de la sécurité de la Russie à ses frontières, mais à toutes ses frontières européennes. Il faut redéfinir les règles de sûreté, de garantie de l'espace continental russo-asiatique. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Non, je pense que ce que vous espérez pourrait être concevable si on avait affaire à des gens de bonne foi et de bonne volonté, ce qui n'est pas le cas. Je ne parle pas de la part des Russes. Encore une fois, si on avait voulu, même si Monsieur Zelensky, qui s'est fait élire en promettant le retour à la paix, l'apaisement, l'équilibre, il n'a pas dit on va appliquer les accords de Minsk, mais c'était tout comme. Monsieur Zelensky n'est pas un homme, c'est une marionnette. Obéit à la fois à ses oligarques et les oligarques à la CIA, obéissent au Pentagone, obéissent à l'état profond américain. Le but de la manœuvre, c'est faire tomber M. Poutine, à parvenir à un changement de régime et couper tout ce que vous voulez, la Russie, dépecer la Russie, renvoyer la Russie, non pas à l'âge de pierre, mais presque. D'ailleurs, c'est ce que l'on fait avec les sanctions. Et donc, les enjeux sont beaucoup trop importants pour qu'on puisse régler ça avec un simple accord. Si c'est un accord, ce sera un accord qui ne tiendra pas. Je pense que nous devons nous attendre à ce que ce drame se poursuive encore un certain temps, sauf à ce que les Russes l'emportent avec une nette victoire et que la situation va continuer à pourrir, puisque il est très intéressant pour les pour ces gens qui sont de l'autre côté de l'Atlantique et qui ne risquent pas la vie d'un simple de leurs soldats, de créer une situation un peu à l'afghane, où la Russie, c'était la Russie soviétique, où les soviétiques en fait s'étaient enlisés et avaient épuisé leurs forces. Faut savoir que les forces, la Russie a les moyens de conduire des guerres, mais de très courte durée, ou des opérations. Là, d'ailleurs, on qualifie ça d'opération spéciale. La puissance industrielle russe et surtout la puissance économique ne sont pas à la hauteur des enjeux et incomparables par rapport ou vis-à-vis de la puissance économique, financière des États-Unis. Encore que M. Poutine est très habile en demandant, sans trahir les contrats qui sont passés, à ce que les acheteurs malveillants de gaz russe le paye en rouble, c'est très astucieux. Alors les autres poussent des cris d'orfraie, parce que il est bien clair que l'Occident veut bien donner des coups, mais elle ne veut pas en recevoir. Voilà, c'est prendre les Russes aussi pour des imbéciles. Et là, ça serait l'objet d'une autre émission, voir quelles peuvent être les conséquences. En tout cas, bravo Monsieur Biden, qui est en train de créer un bloc eurasiatique avec la Russie et la Chine, alors que Russie et Chine ne sont pas forcément toujours très amis, mais ils sont en train. Monsieur Biden est en train de coaliser une partie du monde, c'est pas une partie négligeable, c'est l'Iran, c'est l'Inde, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, c'est le monde arabe aussi, coalisé contre la politique américaine. Donc je pense que les Américains se sont peut-être tirés, non pas une balle dans le pied, mais une balle dans le genou, et que maintenant, leur situation... Donc vous voyez que les enjeux sont considérables, c'est pourquoi, d'ailleurs, la crise peut déraper. Alors j'espère que non, je ne pense pas qu'elle dérape, mais il pourrait y avoir une véritable escalade, et parce qu'il faut bien penser que c'est un affrontement est-ouest. C'est pas la guerre froide, mais c'est une guerre chaude recommandée, mais une guerre asymétrique, une guerre non conventionnelle, par acteurs interposés. Voilà, la crise est réelle, elle est grave, et je ne pense pas que c'est une simple négociation qui nous permettra d'en sortir.
J'ai une dernière question, Jean-Michel Vernochet. Vous avez dit qu'évidemment le rêve des Américains, c'est de mettre la Russie à l'âge de pierre, certes, mais la Russie ne va pas se laisser mettre à l'âge de pierre, parce que nous, on va y passer aussi, parce qu'on est les voisins. Si vous avez eux, ils sont dans l'immeuble en face. Nous, on habite dans le même étage. On est au même étage. Donc si le mec de l'immeuble en face dit « Je vais foutre ton appart à l'âge de pierre, je vais te foutre une grenade dans ton appart », moi, je suis le voisin. Et l'autre va s'énerver, il va me taper dessus aussi. C'est à peu près ça, hein, si je fais une comparaison, si on était voisin de palier.
Si vous mettez une grenade, la cloison peut sauter aussi. Prenez le café chez les voisins, et la maîtresse de maison revenait d'avoir fait les courses, et elle avait acheté plusieurs kilos, des grands sacs de farine, il disait, parce que la pénurie arrive, et là, ce n'est pas sot, avec les sanctions si intelligentes de Monsieur le maire, les pénuries vont s'inviter aussi de la partie. Là encore, les Madame von der Leyen et tous ses copains de l'État profond américain, parce que vous ne pouvez pas oublier, Madame von der Leyen est une global leaders, c'est-à-dire qu'elle dépend de Monsieur Schwab et du forum économique mondial, Davos. Donc, on décide de notre destin. Évidemment, nous ne sommes pas consultés et nous allons en payer le prix. Alors, on a beau nous faire pour les élections une petite réduction sur le prix de l'essence. Enfin, l'essence, quand même, joue avec les 2 euros le litre, ce qui est hallucinant. Sachant que, aux États-Unis, c'est moitié prix. C'est beaucoup moins que ça. C'est 1 dollar le gallon. Un gallon, je pense que c'est 2 litres, 3 litres. Donc, vous voyez, rien de comparable avec chez nous. L'Amérique est loin, elle est de l'autre côté de l'Atlantique, et elle peut, comme je dis, faire d'une pierre deux coups, essayer de démolir la Russie et également affaiblir l'Europe, puisqu'on veut bien une Europe, mais en plusieurs morceaux, et pas une Europe unie, et surtout pas une Europe puissance, et surtout pas une France puissance non plus.
Merci encore Jean-Michel Vernochet, on aura l'occasion de se recontacter puis de refaire un point. Je rappelle que votre livre s'appelle « Chroniques ukrainiennes, l'affrontement Est-Ouest, genèse d'une crise », qui est enrichi avec des notes. Votre premier livre remonte à 2014, vous aviez exactement écrit tout ce qui se passe en ce moment dans vos premiers livres sur l'Ukraine. On peut encore retrouver « Ukraine l'escalade » dans des sites comme sur Amazon, les auditeurs pourront le vérifier en tapant votre nom, Jean-Michel Vernochet. « Ukraine l'escalade », ça date de 2014, et vous écriviez déjà dans le résumé, voilà, si on ne règle pas cette question, on va aller vers une guerre. Vous reprenez, vous réactualisez ce livre qui sort aux éditions du Alpha. Il est sorti en juillet dernier, avant la guerre, voilà, « Chroniques ukrainiennes » de Jean-Michel Vernochet. Merci encore Jean-Michel Vernochet, et je vous dis à très bientôt. Merci.
Merci à vous, merci à toutes et à tous, et à très bientôt.